Le guide dans l'année liturgique, Dom Pius Parch. Le temps de la Passion. Nous entrons dans les jours de deuil où nous pleurons l'époux divin. L'Église prend ses voiles de veuve. Le temps de la Passion est la troisième étape de la préparation pascale. L'avant-carême nous faisait entrer dans les dispositions du carême. Le carême a été le temps de la conversion et du renouvellement de la vie spirituelle. Le temps de la Passion est spécialement consacré au souvenir des souffrances du Christ. Ce souvenir est exprimé de manière différente dans la liturgie. Dans l'Église, les croix et les statues sont voilées. Par cet usage, l'Église veut manifester son deuil. Les croix ornées de pierres précieuses et de métal précieux doivent voiler leur éclat. Autrefois, les croix ne portaient pas l'image du crucifié. Les images et les statues doivent disparaître pour ne pas nous distraire de la pensée de la Passion du Christ. Les derniers chants joyeux de la messe cessent de se faire entendre. Le Gloria Patri disparaît à l'introïte, au lavabo et dans les répons de l'office. De même, le psaume 42 de la prière graduelle n'est plus récité jusqu'à Pâques. On voit dans cette omission une expression de deuil, comme pour la messe des morts. Le véritable motif, c'est que ce psaume est chanté à l'introïte et que la liturgie évite ses répétitions. Cependant, plus encore que par ses signes extérieurs, la liturgie exprime son deuil par son contenu même, en parlant de la Passion du Seigneur. Dans les leçons nocturnes, nous prenons congé des livres de Moïse pour entendre la voix du prophète Jérémie, la plus importante figure du Messie souffrant. Le thème de la Passion, qui déjà dans les dernières semaines était de plus en plus accentué, domine désormais seul. Cette transformation se remarque surtout dans les chants psalmodiques de la messe et les répons du bréviaire. On n'entend plus parler autant la communauté des pénitents et des catéchumènes. Le Christ souffrant prend lui-même la parole. Ce qui mérite une attention particulière, c'est l'ordinaire du temps de la Passion, c'est-à-dire les prières communes des heures, comme les hymnes, les capitules, les répons, les antiennes. C'est dans ces morceaux que l'Église exprime de la manière la plus précise ses pensées sur le temps de la Passion. Elle y a rassemblé les plus beaux textes scripturaires sur la Passion du Seigneur. Pensée principale de la semaine qui va commencer. La liturgie s'entend magistralement à mêler le thème de la Passion avec celui du baptême. On le voit surtout dans les trois messes anciennes. Lundi, c'est encore le contraste si goûté entre les Ninivites, les catéchumènes, qui font pénitence, et les Juifs qui veulent tuer le Christ. Que celui qui a soif vienne à moi et boive. Mercredi, c'est le jour d'examen pour les catéchumènes, sur les commandements qu'ils ont reçus 15 jours auparavant. Les loups entourent l'agneau de Dieu qui par sa mort va donner la vie éternelle aux brebis. Vendredi, Jérémie, la figure du Christ, se lamente sur les Juifs qui ont perfidement abandonné le Seigneur, la source d'eau vive. Jésus meurt pour le peuple et les enfants de Dieu dispersés qu'il rassemble et réunit. Mardi, c'est encore le thème des mardis précédents. La leçon nous donne une image de l'activité de la charité. Le thème de la Passion parcourt toute la messe. Jeudi, c'est la dernière messe de pénitence, avec les images de la captivité de Babylone et de la pécheresse. Le samedi est une vigile du dimanche des rameaux. La croix voilée. Aujourd'hui, l'Église commence à rappeler d'une manière plus accentuée à ses enfants la mort rédemptrice du Christ. D'une manière plus accentuée. En effet, à proprement parler, le souvenir de la mort du Christ est l'objet principal du culte chrétien. Saint Paul ne dit-il pas « Toutes les fois que vous mangerez de ce pain et boirez de ce calice, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Le saint sacrifice de la messe est donc l'annonce de la mort du Christ. Toutes les fois que nous venons à la messe, nous annonçons notre foi. Le Christ est mort pour nous et le sang de son sacrifice coule encore aujourd'hui pour nos âmes, et la chair de son sacrifice est notre nourriture pour notre vie éternelle. D'une manière plus accentuée, en effet, pendant le carême, le thème de la Passion s'est maintes fois fait entendre. Sans doute la liturgie diffère ici entièrement de notre piété courante. Il s'agit du combat du Christ contre l'enfer. Il lutte contre le diable pour conquérir les âmes que son Père lui a données. C'est là une des pensées principales que nous rencontrons à travers toute la Sainte Quarantaine. Examinons les trois dimanches principaux qui sont comme les piliers du carême. Le premier dimanche, le Christ et le diable, le Christ est sur la défensive. Le troisième dimanche, le fort et le plus fort, le Christ passe à l'offensive. Le dimanche des rameaux, le Christ vainqueur et roi dans sa passion. Songeons aussi qu'il ne s'agit pas seulement d'une bataille livrée il y a 2000 ans, cette bataille se continue dans tous les temps. Le Christ qui lutte, combat et triomphe est le Christ mystique dans son corps, l'Église et dans ses membres les chrétiens. Le temps de carême est donc un noble tournoi, dans lequel nous ne sommes pas de pieux spectateurs, mais des chevaliers qui entrent dans la lice. Dans ce sens, le carême est donc aussi le temps où nous nous souvenons de la mort du Christ. Aujourd'hui, nous entrons dans le temps de la Passion. Nous penserons davantage aux souffrances du Christ. C'est le temps dont Jésus a dit « Quand l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront ». Que doit donc être ce souvenir de la Passion ? Il importe de nous rappeler la profonde différence entre les sentiments des anciens chrétiens et ceux des chrétiens d'aujourd'hui. Comment la piété populaire pense-t-elle à la Passion du Christ ? Elle s'en tient aux souffrances historiques du Seigneur. Elle essaye de se représenter d'une manière imagée les scènes particulières des amères souffrances. Elle analyse les sentiments et les pensées du Sauveur souffrant. Elle a compassion et elle pleure. Elle se demande quelle vertu le Seigneur a exercée à chaque phase de sa passion. Comment l'imiter? Que devons-nous apprendre de lui? C'est pour elle la question la plus importante. Elle fait enfin de la passion le principal motif du changement de vie. Il est mort pour moi sur la croix et moi, je l'ai si gravement offensé. Telles sont les pensées de la piété populaire au sujet du Seigneur souffrant. Quelles étaient les pensées de l'antique piété chrétienne que la liturgie nous a conservées? Elles prenaient de tout autre chemin. Sans doute, elles placent au centre la passion historique du Christ, mais elles ne s'y arrêtent pas. Elles s'attachent davantage à l'idée et au but de la passion et ne placent le revêtement historique qu'au second plan. Le Christ nous a rachetés par ses souffrances, il a fait de nous des enfants de Dieu. C'est là le fait le plus heureux du christianisme. C'est pourquoi la piété liturgique verse moins de larmes amères, elle peut même se réjouir. Au moment qui est apparemment le plus triste de l'année, le Vendredi Saint, quand on adore la croix, elle va jusqu'à chanter une hymne de jubilation. Voici que par le bois est venue la joie dans le monde entier. C'est pourquoi la liturgie ne parle pas volontiers des souffrances amères, mais de la Beata Passio, de la bienheureuse passion, la passion qui rend heureux. Elle voit moins le côté humain que le but de la passion, notre salut. C'est pourquoi l'art chrétien antique ne s'est guère occupé de l'aspect douloureux, mais a exprimé surtout les pensées de la rédemption. Depuis le Moyen-Âge, on représente de préférence Jésus attaché à la colonne de la flagellation ou bien cloué sur la croix, le corps tordu par les angoisses de la mort. Il n'en était pas de même dans l'Église ancienne. On élevait la croix comme un signe de victoire et de rédemption. C'était la crux gemmata, la croix de métal précieux, ornée de pierreries. Cette croix ne portait pas de crucifix. Ces deux croix sont justement devenues les symboles des deux conceptions de la passion et des deux types de piété. Quand nous entrons aujourd'hui dans l'Église, nous voyons la croix voilée. Nous cherchons en vain quel peut être le motif de cette manière de faire Pourquoi, au moment même où l'on pense davantage à la mort du Christ, doit-on voiler l'image de la croix? On comprendrait mieux le procédé contraire, la croix voilée pendant le reste de l'année est découverte au temps de la Passion. Or, ce que nous faisons maintenant sans le comprendre est un écho de l'antique piété. Quand la croix était encore sans crucifix et brillait d'or et de pierres précieuses, il convenait d'en voiler l'éclat à l'époque où l'époux est enlevé. L'Église revêt ses voiles de veuve, et c'est là un souvenir plus délicat de la Passion que l'image d'un corps torturé et suspendu à la croix. En tout cas, la première conception correspond mieux à la noble attitude des anciens. On le voit donc, la piété objective porte, elle aussi, le deuil de la Passion, mais d'une autre manière. Creusons encore la différence entre la piété populaire et la piété liturgique. La première est doctrinale et sentimentale. La seconde vise à l'action. Elle se demande moins quelle vertu et quelle doctrine doit nous enseigner la méditation de la flagellation, mais elle nous fait sentir que nous sommes les membres du corps du Christ et, dans nos épreuves terrestres, nous fait voir une participation à sa Passion. Que dit saint Paul, le docteur de la piété objective ? De même que les souffrances du Christ abondent en nous, de même aussi par le Christ abonde notre consolation. Il va même jusqu'à voir dans ses propres souffrances un complément de la Passion du Christ. C'est là une magnifique conception de la Passion. Toute la vie des chrétiens est unie au Christ, nos souffrances et nos joies sont les souffrances et les joies du Christ. Aujourd'hui, au moment où j'écris ces lignes, nous célébrons la fête de Sainte Perpétue et Félicité, et je lis dans leurs actes « Dans la prison, Félicité était sur le point de mettre au monde un enfant. Comme elle souffrait les douleurs de l'enfantement, un soldat lui dit en raillant « Si tu souffres tant maintenant, que feras-tu donc quand tu seras jeté devant les bêtes sauvages ?»« Maintenant, répondit-elle, c'est moi qui souffre. Mais alors un autre sera en moi qui souffrira pour moi. » Parce que moi aussi, je dois souffrir pour lui. Saint Paul pousse ce cri de joie. Avec le Christ, je suis attaché à la croix. Aussi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Tant que je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. La piété objective n'est donc pas dépourvue de sentiments. Elle connaît même une puissante mystique de la Passion, parce qu'elle se sait en union avec le Christ. Et maintenant, que devons-nous faire? Faut-il abandonner nos méditations sur la Passion auxquelles nous sommes habitués depuis notre jeunesse, pour nous tourner vers la piété objective? Cela n'est pas nécessaire. Approfondissons plutôt nos exercices précédents, en nous inspirant des conceptions de la Passion qu'avait la primitive Église. « Éprouvez tout et gardez ce qui est bon, » dit l'apôtre. Dans l'Église, les deux conceptions sont en usage et par conséquent recommandables. Mon intention était de marquer les différences, non pas pour critiquer une conception, mais pour mieux faire comprendre le point de vue liturgique. Lorsque vendredi prochain nous célébrerons la fête des sept douleurs de la Sainte Vierge et chanterons le beau Stabat Mater, nous nous rendrons compte immédiatement que nous sommes en face de pensées de la piété subjective. Mais quand aujourd'hui, à la messe, nous voyons à l'épître le divin grand prêtre revêtu de ses ornements entrer dans le sein des saints du ciel avec son propre sang et accomplir la rédemption éternelle, nous savons que la liturgie nous présente une méditation objective de la Passion. L'Église est semblable au père de famille de l'Évangile, qui tire de son trésor de l'ancien et du nouveau. Encore une fois, examinez tout et gardez le bon. Dimanche de la Passion. Station à Saint-Pierre. Le grand prêtre entre dans son sanctuaire. L'Église déroule devant nos yeux trois images de la Passion du Seigneur, une image figurative, une image historique et une image dominant les temps. Image figurative. L'Église nous ramène en arrière au temps de l'histoire juive, environ 600 ans avant Jésus-Christ. Il y avait sur le trône de David des rois indignes. Dans la terre promise, on adorait les idoles. L'injustice et l'immoralité régnaient dans le pays où Dieu était roi. Dieu suscita des prophètes qui devaient avertir le peuple et les chefs. L'un des plus grands parmi eux fut Jérémie, un homme d'une grande pureté d'intention, rempli d'amour pour Dieu, pour son peuple et sa patrie. Il voit venir le malheur prochain, l'exil. Il prêche la pénitence, mais les Juifs ne veulent pas l'écouter. Ils veulent se débarrasser de l'homme importun, ils le persécutent et le tourmentent. Les avertissements étant restés sans succès, le malheur éclate. La ville et le temple sont en ruine, le roi et le peuple sont conduits en exil. Jérémie s'assied sur les ruines de Sion et chante ses lamentations. Jérémie est la figure du Messie souffrant, mais moins dans ses paroles que dans sa personne. Aujourd'hui, l'Église lit le commencement du livre, le commencement vaut pour le tout. Le prophète Jérémie nous accompagnera pendant tout le temps de la Passion. Deuxièmement, une image historique. L'image historique nous apparaît dans l'Évangile. Le Christ est entouré des Juifs hostiles. Déjà, ils prennent des pierres pour le lapider. La mort du Christ était déjà résolue. Elle est déjà accomplie dans la volonté de ses ennemis. Mais son heure n'est pas encore arrivée. Le Christ se tient au milieu d'eux, plein de majesté. « Qui d'entre vous peut me convaincre de péché ? Avant qu'Abraham fût, je suis. » L'image dominant le temps. L'image dominant le temps nous apparaît dans l'Épître. C'est une grande action liturgique. Le divin grand prêtre, revêtu de ses ornements, pénètre dans le Saint des Saints du ciel avec son propre sang et opère la rédemption éternelle. Dans ces trois images se trouve contenue et expliquée toute la liturgie de ce dimanche. Entrer dans le temps de la Passion. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, ne fermez pas vos cœurs. C'est par ces paroles de l'invitatoire que l'Église nous invite à commencer dignement le temps sacré du souvenir de la Passion de notre Seigneur. C'est aussi une invitation à nous unir aux souffrances et aux sacrifices du Christ dans son corps mystique. Le premier répond de matine nous introduit solennellement dans le temps de la Passion. Et en même temps, nous fait entrevoir Pâques, encore 15 jours avant la grande fête. Ce sont des jours que vous devez sanctifier en leur temps. Le 14e jour au soir commence la Pâque du Seigneur. Le 15e jour, vous célébrerez la grande fête pour le Seigneur Très-Haut. Nous considérons dans le temps qui commence le Christ, dans ses souffrances amères, comme l'homme des douleurs. Nous pleurerons avec lui et nous compatirons à ses souffrances. Mais en même temps, nous verrons en lui le vainqueur qui a triomphé sur le champ de bataille du Golgotha, et nous serons vainqueurs avec lui. Nous verrons le roi qui, sur le trône de la croix, règne par ses souffrances, et nous régnerons avec lui en triomphant des souffrances de la vie. Nous considérerons le grand prêtre qui entre dans le Saint des Saints pour se sacrifier pour nous et nous inviter à être prêtre avec lui dans l'abandon de notre vie. La messe. Judicame. Nous nous rendons aujourd'hui dans l'église de Saint-Pierre, au tombeau du prince des apôtres. Autrefois, dans la nuit du samedi au dimanche, il y avait vigile à Saint-Pierre et l'on procédait à l'ordination. C'est ce qu'indiquent la station et le contenu de la messe. Saint-Pierre est le premier vicaire du divin grand prêtre. À l'introïte, nous voyons le Seigneur lutter comme au jardin des Oliviers. Il demande une décision judiciaire entre lui, d'une part, et le peuple profane des Juifs et l'homme mauvais et perfide, Judas, d'autre part. À l'épître, nous voyons le divin grand prêtre s'avancer vers l'autel de la croix. En versant son propre sang, il expie pour l'humanité alors qu'il est lui-même sans péché. Le graduel et le trait sont les plaintes du Christ souffrant. Ces chants nous conduisent à la colonne de la flagellation. Ils ont labouré sur mon dos, ils ont creusé de longs sillons. Ils nous conduisent à la croix. Vous m'élèverez au-dessus de ceux qui se sont levés contre moi. Sauvez-moi de l'homme méchant. L'Évangile nous montre, de nouveau, notre grand prêtre, le Christ, qui est innocent et éternel. Nous jetons encore un regard sur l'abîme de méchanceté de ses ennemis. Cependant, on voit briller la lumière de Pâques à travers la sombre scène. Abraham s'est réjoui de voir mon jour. Les Juifs voulaient le lapider, mais il se cache, thème de la Passion et de Pâques. L'offertoire est un champ de route avec la promesse de devenir sans tache, comme le divin grand prêtre lui-même est innocent. L'antienne de communion nous rappelle que l'Eucharistie est le mémorial de la mort du Christ. C'est le corps qui sera livré pour vous, c'est le calice du Nouveau Testament dans mon sang, dit le Seigneur. Faites ceci toutes les fois que vous prendrez ce sacrement en mémoire de moi. La prière des heures. Dans la lecture de l'Écriture se dresse devant nous le prophète Jérémie, qui est la figure du Christ souffrant. Dans le premier chapitre, nous entendons parler de sa vocation de prophète. Ce chapitre n'a pas de rapport immédiat avec le Christ, mais le commencement vaut pour l'ensemble. Cependant, on peut voir, dans le passage suivant, l'introduction de l'histoire de la Passion. « Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur ce que je t'ordonnerai, car je te donnerai la force afin que tu n'aies pas à craindre devant eux. Je t'établis aujourd'hui comme une ville forte, comme une colonne de fer et une muraille d'airain devant tout le pays, devant les rois de Juda, devant ses princes, devant les prêtres et le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas t'abattre, car je suis avec toi, dit le Seigneur, pour te délivrer. » Nous entendons en outre deux sermons des deux grands papes et docteurs de l'Église, Saint Léon Ier et Saint Grégoire Ier. Ces deux discours sont d'autant plus importants qu'ils furent prononcés tous les deux à Saint-Pierre de Rome, pendant l'office liturgique de ce jour, l'un vers 450, l'autre vers 600. Nous ne donnerons qu'un extrait de chacun d'eux. Parmi toutes les solennités chrétiennes, nous savons que le mystère pascal est la principale. Pour nous préparer à recevoir dignement et convenablement ce mystère, les institutions de tout le temps liturgique travaillent à notre réforme. Mais les jours présents réclament particulièrement notre dévotion, car nous le savons, ils sont en relation immédiate avec le plus sublime mystère de la divine miséricorde. Dans ces jours, les apôtres inspirés par le Saint-Esprit ont à juste titre ordonné un jeûne plus sévère, afin que par notre participation commune à la croix du Christ, nous fassions un peu ce qu'il a fait pour nous, comme le dit l'apôtre. Si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Saint Léon. Examinez, très chers frères, la mansuétude de Dieu. Il était venu pour enlever les péchés et il disait « Qui de vous me convaincra de péché ?» Il ne dédaigne pas de montrer par la raison qu'il n'est pas pécheur, lui qui par la force de la divinité pouvait justifier les pécheurs. Mais ce qu'il ajoute est terrible. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Aussi vous ne l'entendez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Que chacun se demande s'il entend les paroles de Dieu avec l'oreille du cœur, et il saura s'il est de Dieu. Saint Grégoire. Pendant le jour, nous devons porter constamment dans notre cœur l'image et les paroles de l'Évangile. Dès le lever du soleil, nous chantons les paroles du Seigneur. Celui qui est de Dieu entend la parole de Dieu, vous ne l'entendez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est une parole effrayante au début de la journée. Nous entrons immédiatement dans le combat du Seigneur contre les ténèbres. À chaque heure du jour, nous chantons une autre parole du Seigneur. Je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père, à prime. Je ne cherche pas ma gloire, il y a quelqu'un qui la cherche et qui est juge, à tierce. En vérité, je vous le dis, celui qui garde ma parole ne goûtera jamais la mort, à sexte. Et vers la fin du jour, nous chantons le tragique dénouement de la journée. Les Juifs ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple, à Non. Et à Vêpres s'ouvre une joyeuse perspective sur Pâques. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il devait voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui.